Les exilés de Byzance, de Catherine Hermary-Vieille, lu par Raphaël Moutier. Au début, ce fut une lutte à distance. Au premier rang des assiégeants, les soldats originaires de maints pays d'Asie qu'on nommait Bachibouzouk. Derrière eux, les janissaires. 50 000 assaillants, dans la lumière de l'aube naissante, se ruaient sur les remparts à demi démolis, tandis que les défenseurs, dans une pluie de flèches, renversaient les échelles sur lesquelles les Turcs s'agglutinaient en une masse si compacte qu'on aurait cru des insectes grouillant sur un bâton. L'élite de Constantinople, les soldats italiens et grecs, frappaient de l'épée dans le tas de ceux qui parvenaient au créneau. D'autres tiraient à coups de couleuvrine sur ceux encore à terre qui s'apprêtaient à redresser les échelles renversées. D'autres encore jetaient des quartiers de roc qui causaient de grands ravages. Personne ne reculait car le sultan avait ordonné que le moindre fuyard soit taillé en pièces. Il faisait grand jour désormais. Le soleil jouait sur les pierres ocres des murailles, caressait les minces tiges de verdure qui avaient trouvé le moyen de s'y enraciner. La mêlée devenait un corps à corps. Les imprécations, les cris de guerre ou de douleur, se mêlaient aux canonnades, tandis qu'au loin meuglaient les bestiaux, blatéraient les chameaux, aboyaient les chiens. Dans les brèches de la muraille, Turcs et Byzantins combattaient presque enlacés les uns aux autres. « Ilaha, Ilah, Allah, Ilahu, Allah Akbar !» vociféraient des milliers de gorges. Dans la basilique, vieillards, femmes, enfants, agenouillés, suivaient avec ferveur les prières de l'office. L'éclat des chasubles, les ornements de soie brodés, souvent incrustés de pierres précieuses, semblaient jeter leur dernier feu. Sur l'iconostase séparant la nef du sanctuaire, les figures tant vénérées des Vierges, du Christ et de tous les saints protecteurs, voilés par les fumées d'encens, semblaient se retirer déjà dans l'éternité. Depuis le cœur de la nuit, les cloches de toutes les églises continuaient à sonner à toute volée comme un cri de ralliement, un appel à une ultime résistance. « Par tous les saints du ciel, la Kerkoporta !» s'écria soudain Georges Doukas, le capitaine des archers. Il s'agissait d'une poterne qui avait été créée près de la porte d'Andrinople, dans l'enceinte intérieure. Dans la hâte des derniers préparatifs avant l'assaut, cette petite porte à moitié ensevelie sous la végétation avait été oubliée de tous. « Courez à la poterne !» ordonna-t-il. « Voyez si les murailles extérieures sont encore debout !» Qu'apparaisse la moindre brèche, et c'était des dizaines de soldats turcs qui pouvaient s'y engouffrer et lever les barres de fer transversales qui fermaient la porte d'Andrinople. « La porte est prise !» La clameur était assourdissante. Les fuyards se ruaient vers les parties des remparts intérieurs encore solidement défendues par les leurs. Mais, vite rattrapés, ils se retrouvaient coincés entre les deux murs et massacrés. Déjà, les Turcs déferlaient dans la ville après avoir planté sur la porte d'Andrinople les étendards de Mehmet. Ceux du Bacillus avaient été lacérés. Bientôt, la ville entière fut cernée de drapeaux mahométans flottant dans la brise du printemps, tels des linceuls qui allaient ensevelir les Byzantins. « La ville est prise ! La ville est prise !» Le cri se répandait d'avenue en ruelle, de ruelle en jardin, gagnant les maisons les mieux closes, levant partout la plus terrible détresse, un affolement bestial qui poussait des foules entières vers les remparts, comme s'ils pouvaient encore les protéger. Ceux qui parvenaient sur le chemin de garde en haut des pans encore debout aperçurent les navires vénitiens et génois lever les voiles. La chaîne fermant la corne d'or était cassée. Allaient-ils fuir